2023 a été une année exceptionnelle. C'était le retour des Gardiens de la Galaxie, l'arrivée de Super Mario au cinéma et bien aussi les adieux du pauvre Indiana Jones. Quels sont vos films préférés de l'année 2023 ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et pour bien commencer l'année, qui de mieux que ma chère Vanessa ? Bonjour Vanessa !
Bonjour Clément !
Eh bien, merci d'être là pour parler de cette année 2023. Bonne année, meilleurs vœux pour commencer.
Bah, meilleurs vœux à toi aussi et meilleurs vœux à tous nos éditeurs.
Tout à fait. 2024 va être une année de cinéma incroyable. Mais aujourd'hui, on va parler de 2023. Quels sont nos films préférés ? On s'est organisé un petit peu d'une façon assez particulière.
Différente,
ouais. Tout à fait. On va prendre nos films préférés de l'année 2023 par catégorie. Et pour commencer, commençons avec les thrillers. Quel est, Vanessa, ton film de thriller préféré de l'année 2023 ?
Misanthrope.
Waouh !
Ah oui, ça étonne. C'est vrai que c'est un film qui m'a vraiment pris. J'ai trouvé l'enquête incroyable entre cette jeune et cette personne expérimentée du FBI.
Tout à fait.
Et franchement, je suis dedans, mais à fond. Et je suis prise dedans et je suis là, je me dis mais qui c'est et j'aime ça. J'aime quand j'arrive à un moment où je trouve pas la personne. Je vais au fur et à mesure et quand je trouve, je fais oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Et ouais, et je trouve le duo fonctionne du feu de Dieu, quoi.
Ouais, tout à fait. Moi, j'ai adoré Misanthrope. Je l'ai vu au cinéma et c'est vrai que quand on arrive, on va pas trop en dire, mais quand on arrive à l'acte final avec cette cabane et cette dualité, on se dit, mon Dieu, mais quel sera le dénouement? Comment ça peut se terminer? Et ça a été vraiment une véritable surprise, Misanthrope. Donc, très bon choix. Je dis, bravo.
Merci. J'ai juste une petite mention honorable pour Limbo.
Ah, je l'ai pas vu, Limbo.
Ah là là, quel beau film. On va dire, cet emploi du noir et blanc est incroyable. Dans une ville un peu bidonville.
Alors écoute, j'ai entendu plein de points positifs sur ce film Limbo, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a eu une sortie un peu limitée, non ?
Oui, ouais. En fait, très limitée parce qu'il s'est retrouvé quand même en face de gros mastodons.
C'est toujours le problème. Voilà. Mais bon, peut-être qu'ils auront une seconde vie en VOD, en Blu-ray, et voilà, sur les plateformes de
Canal+.
Sur Canal+. Bah,
sur Canal+, il arrive là.
Ah bah, très bien, c'est noté, on le regardera sur MyCanal.
Misanthrope d'ailleurs est sur Canal+.
Et bah voilà, c'est noté x2. Donc, pour ma part, pour le thriller, j'ai choisi le film Missing, Portée disparue, ouais. Qui est donc une sorte de suite spirituelle au film Searching, qui est sorti quelques années plus tôt, et qui, en gros, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui voit sa maman disparaître un peu comme par magie, et qui va partir faire son enquête toute seule via Internet et les réseaux sociaux. La particularité de ce film, c'est que tout est filmé sur un écran d'ordinateur. On ne voit jamais l'extérieur. Donc, justement, là, il faut s'adapter avec ce qu'on a. Le moteur de recherche, la webcam et plein de sites internet. C'est génialissime. J'avais adoré Searching. Si vous n'avez pas vu Searching, regardez Searching avant de voir Missing, parce que Missing, c'est une des grosses pépites de cette année. C'est prenant, c'est original. Et je trouve que c'est quand même... Voilà, c'est une véritable surprise, quoi. Donc, Missing. Je ne sais pas si tu l'as vu, Vanessa.
Ah si, j'ai vu Missing, Portée disparue. Et juste avant, la veille, j'avais vu Searching sur Netflix.
Sur Netflix, ouais. Searching, qui avait le même concept, en fait, finalement. C'était un papa qui perdait sa fille et qui allait chercher sa fille sur Internet. Et là, sur Missing, c'est l'inverse. C'est la fille qui perd sa maman, qui va chercher sa maman.
Je trouve que c'est vraiment très, très bien fait.
C'est extrêmement...
Avec les réseaux sociaux et tout.
C'est super bien fait. Et alors, moi qui suis un fervent défenseur des salles de cinéma, je l'ai vu au cinéma et je pense que ça quand même sont plus à la maison à le regarder sur un ordinateur pour être
d'accord.
Vraiment en totale immersion avec la forme que prend ce film. Voilà. Alors, on va passer quand même à la catégorie suivante. Quel est-il ? Il me semble que c'est les films d'horreur.
Ah oui, c'est les films d'horreur.
Vanessa, je t'en prie, quel est ton film d'horreur préféré de l'année 2023 ?
Eh bien, il est arrivé très très tard, le film d'horreur préféré. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse un bond aussi énorme. C'est Vermine, qui est sorti le 27 décembre.
Mon Dieu, je me suis retrouvé en vacances au
je
moment de la...
Je vais te tuer.
Alors, j'ai quand même, pour ma défense...
Tu veux aller chercher l'araignée.
Alors,
ou
pour
Sophia
ma défense, j'ai très très peur des araignées.
Ah.
Donc, je sais pas si c'est le film pour moi.
Je sais pas. Dans la salle, moi, quand j'y suis retournée, j'ai été le voir deux fois, il y avait des gens qui avaient peur des araignées. Et en fait, ils m'ont dit, j'ai sursauté, j'étais pas bien, je me suis cachée, mais j'ai adoré. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu as eu peur?
Ouais, j'ai sursauté, j'étais pas bien. J'avais peur pour eux, en fait.
Bien sûr. Et, là, et c'est un film français,
vraiment... Oui, et puis c'est un survival.
Ouais,
c'est vraiment... Et puis un film sur les araignées français avec cette teneur 4,5 millions pour, avec
incroyable.
Des effets spéciaux incroyables, avec un casting mais époustouflant. Enfin, moi, j'ai ce mot-là, quoi. Théo non, Christine est fort. Sophia Le Saffre est incroyable.
Bien sûr.
Il coupera. Mince, Oldfield. Finnegan.
D'accord.
Finnegan, Oldfield est incroyable aussi. Enfin, ils sont tous, mais flamboyants. Ils sont Lisa Nyarko. Enfin, j'ai trouvé Jérôme Niel. Jérôme Niel, tu sais, qui est dans le truc de l'humour et tout. Eh bien, là, il m'a fait peur. Il y a des moments, j'étais là, ouais, tu me fais rire, mais là, je rigole plus. Là, Et puis, il y a plein de petits clins d'œil, dont un super à Alien.
Ah, bah, j'imagine bien, forcément, un film de survival avec une créature qui s'attaque à des humains.
Oui,
c'est pas possible.
Au début, elle est toute mimi, toute sympa, la créature, jusqu'au moment où va y avoir un truc crescendo. Et puis, ça se passe dans un immeuble. Ils sont confinés à l'intérieur.
D'accord.
Il s'est passé quelque chose.
Ouais.
Un huis clos total. Et il y a un moment, un passage dans un couloir où ils sont dans un cocon d'araignée. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, comment ils vont faire pour passer?
J'ai le frisson.
Oui, mais franchement, tu sais, j'avais des images de ça, tu sais, avec les cocons
oh
et machin. J'étais là, oh mon Dieu. Mais c'est sublime.
C'est incroyable quand même. C'est un film français d'horreur qui sort en période de Noël face à des films comme Aquaman 2 ou Anka et qui arrive à s'en sortir. C'est quand même un petit miracle. Comment t'expliques, toi, que le cinéma français, finalement, il est en train de prendre encore plus d'importance qu'avant, à n'importe quel moment de l'année, en période de Noël, comme avec Vermine?
Bah, moi, je pense qu'il y a des réalisateurs qui prennent des risques et qui se disent « Bon, j'ai mon idée, je vais y aller. Je vais aller au-devant des distributeurs, tout ça. » Et ils ont été voir Netflix. Et Netflix leur a dit « Oh, super idée, originale, mais il faut que ça fasse une sortie au cinéma. »
Tout à fait.
Et ils ont fait en sorte qu'il y ait cette sortie au cinéma. Et merci, merci, merci d'avoir dit qu'il fallait une sortie au cinéma parce que ce film mérite le grand écran et mérite le succès qu'il a actuellement. Et j'espère que tout le monde va courir dans les salles. Si vous n'avez pas vu Vermine, toi, le premier, là, devant
noté.
Moi, dès que tu as fini ton festival, hop, tu cours voir Vermine parce que franchement, c'est une pépite.
Bien sûr, au moment où on enregistre l'émission, on est début janvier, le film est encore en salle, donc dépêchez-vous si vous voulez aller voir Vermine. Apparemment, d'après Vanessa et beaucoup de spectateurs, c'est quand même la petite surprise de fin d'année. Pour ce qui est des films d'horreur, pour ma part, j'ai choisi un film d'horreur psychologique assez particulier qui a pas mal divisé, soit on adore, soit on déteste. J'ai choisi Boys Afraid de Ari Aster. Alors, Boys Afraid de Ari Aster, c'est un film avec Joaquin Phoenix qui est, complètement atteint psychologiquement. L'histoire, c'est qu'il doit rejoindre sa maman. Voilà, sa maman lui a donné rendez-vous. Mais le problème, vu que c'est un angoissé chronique, il doit sortir de son appartement, affronter la réalité à l'extérieur, les choses qui lui font peur. Et du coup, ça va partir dans une quête épique, psychologique, malsaine pour rejoindre sa maman. Ça paraît très étrange, résumé comme ça. Ça ne ressemble pas à un film d'horreur et pourtant... Tout ce que vous allez voir en termes d'imagerie est ignoblissime. C'est horrible à voir, mais c'est inoubliable. Souvent, les films qui nous marquent comme ça, qui nous atteignent, ben c'est ça, quoi. C'est ça le cinéma. C'est voir quelque chose qui casse les codes, qui nous évade et qui nous permet aussi de regarder un cinéma différent où on perd un peu nos codes de narration classiques. Vanessa, est-ce que tu as vu Boys Afraid?
Je l'ai vu et j'ai pas adhéré. Je suis désolée.
Et voilà,
je fais partie de ceux qui m'ont eu du mal et pourtant je l'ai vu deux fois. Parce que vu ce que disaient certaines personnes que je connaissais, je me suis dit mince, j'ai dû passer à côté. Et oui, je suis passée à côté parce que j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire.
Eh ben,
et pourtant, il y a des effets magnifiques, hein. Y a des trucs horribles à souhait.
Il y a la partie théâtrale où il y a quelque chose d'animation derrière.
Oui. J'ai pas réussi à, à être subjugué alors, par le film.
Il faut préciser que Ari Aster, le cinéaste, est quand même un habitué du genre très particulier, puisque son film d'avant, c'était Midsommar, un film d'horreur en plein jour où des gens sautaient d'une falaise pour s'exploser la tête. Et oui. Le film d'avant, c'était Hérédité, où c'était une petite fille qui se faisait décapiter. Enfin bref, il a un problème avec les têtes qui tombent, Ari Aster. Hein. Vraiment, il faut...
Je crois.
Il faut qu'il arrête. Donc, Boys Afraid, moi, c'est mon film d'horreur préféré de l'année 2023. On va passer quand
Est-ce que tu as une mention honorable?
En film d'horreur? Non, pas spécialement. Écoute, j'ai choisi celui-là parce que pour moi, il rassemblait tout. Et peut-être que toi, Vanessa, à ton sourire, t'as une mention honorable.
Moi, j'avais la main.
Alors, j'ai pas du tout adhéré à la main.
Ah, tu vois, t'as pas adhéré, tu vois.
Mais par contre, avec une particularité, je note. La main, je n'ai pas aimé ce film, mais j'ai adoré la fin. J'ai adoré la façon dont...
Le twist. Dans
le twist final est incroyable. Mais j'ai pas aimé le film en entier parce que pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la main. C'est que dès le début du film, il commence à faire des choses un peu spirituelles avec cette main. Et à aucun moment, les personnages se disent « ça, c'est un élément fantastique, c'est pas commun, faudrait peut-être qu'on arrête ». Non, eux, ils continuent, tout est normal.
Non, c'est génial, c'est un truc, les jeunes se retrouvent, et c'est vrai, aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Ils se retrouvent, alors c'est pas des mains, c'est les planches de Ouija.
Les planches de Ouija.
Et ils passent du temps, et ils passent des soirées à faire ça. Alors, ils se font des délires avec ces planches de Ouija.
C'est peut-être parce que c'est pas notre culture.
Avec la main, en fait, comment ça devait se passer. Et moi, c'est vrai que j'ai adhéré, parce que je savais cette histoire avec la planche de Ouija. Et puis ce côté jeune, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé en plus l'histoire, que ça menait vraiment vers cette fin. Et je me disais, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la personne qui va être possédée? Qui va la posséder? Et ça m'a éclaté, quoi.
Eh bien, écoutez.
Le jeune, quand il se fait posséder, mon Dieu, c'est horrible. Mais waouh, c'est très bien fait.
Ça m'a tellement surpris. Mais tu as raison de le mentionner, puisque la main. Alors, double anecdote, les réalisateurs de la main ont tourné. Un préquel, ça y est, il est monté, préparé, il va sortir, ça sera donc un film qui va se dérouler avant les événements du film La Main, et la suite est déjà signée, donc en fait, voilà, c'est parti pour devenir une grande saga du cinéma d'horreur, donc La Main, effectivement, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, allez-y, mais moi, je ne mettrai pas ma main à couper sur ce film-là. Voilà, c'était une petite blague, on va passer à la catégorie suivante, qui était donc catégorie comédie dramatique, Vanessa.
Ouais, c'est pas évident là.
Ouais, on a mélangé les deux.
Comédie dramatique, c'est ce qui est normalement, hein, c'est le genre prévu.
Ouais, combiné.
J'ai mis Barbie parce que j'ai été vraiment bluffée par ce film et puis par les messages qu'il y avait dedans. J'ai aussi bien ri que aussi bien été touchée et j'ai aussi bien fait une introspection. Et à rechercher pourquoi les messages cachés de la réalisatrice. Et j'ai trouvé que c'était très, très bien fait.
Alors, je n'ai pas du tout aimé Barbie. En fait, j'ai pas détesté.
J'adore parce qu'on a des avis différents et c'est ça qui est trop
bon. C'est ça, vous êtes un peu en opposition. Là.
C'est ça, c'est la passion du cinéma. On embrasse Léo à la technique qui vient d'arriver.
C'est ça.
Mais Barbie, en fait, moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est que le message féministe, je l'entends, je le comprends. Et il y a plein de films du genre que sur ces dernières années qui l'ont traité très, très bien. Men, Promising Young Woman, She Said, il y a eu énormément de films dans le genre. Mais Barbie, le problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il s'agit d'un film qui esthétiquement est sublime, qui reprend justement les jouets Barbie que les petites filles, les petits garçons avaient à l'époque, mais à la fois c'est un message très adulte. Donc à qui se destine ce film? C'est-à-dire que les petites filles de 6-8 ans ne vont pas comprendre le message de fond. D'un côté, je trouve que...
Oui, mais ils vont le vivre différemment.
Ils vont le vivre différemment.
Et ça, c'est excellent parce que les gamins le vivent différemment, quoi.
Ouais, je sais pas. En fait, j'ai eu du mal à comprendre qui était la cible pendant le film. Je trouvais que moi, en tant qu'adulte, je trouvais ça un peu léger, un peu faible pour que j'adhère à l'humour, tout ça. Et d'un côté, je me suis dit, mais pour les enfants, c'est peut-être un petit peu complexe. Et là où je suis pas rentré dans le délire total de Barbie, c'est l'instant même où le personnage se retrouve dans le monde réel. Mmh. Et il y a un personnage, et pour moi, là, ça a été rédhibitoire, c'est le personnage campé par Will Ferrell. Will Ferrell fonctionne comme un personnage de cartoon, comme un personnage fictif. Donc, ça n'est pas du tout représentatif du monde réel. Et à ce moment-là, pour moi, ça ne marche pas. Ce qui aurait été très, très fort, c'est justement de garder le côté excentrique, pop, coloré dans le monde de Barbie et montrer un film très terre-à-terre, très réel à l'extérieur. Le problème, c'est qu'ils ont fait un mix des deux. Ouais. Ça fait un objet hybride et ce qui fait que, voilà, j'ai pas détesté, mais je n'ai pas aimé non plus. Donc, c'est quand même tiède. Voilà.
T'attends pas avec impatience Ken, alors?
Alors, j'ai entendu parler du projet de Ken.
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas. Je le verrai parce que j'ai vu Barbie, mais pareil, c'est pas quelque chose qui me transcende. Mais peut-être que Ken va changer ma vision de cet univers qui a l'air d'être très très bien parti et qui a cartonné face à Oppenheimer. Donc bravo Barbie.
Ouais, c'était pas évident. Hein.
Alors pour moi, la comédie.
Barbenheimer,
ah, mais quel succès. C'était vraiment quelque chose d'unique pour 2023. Pour ma part, Vanessa, comédie dramatique, je pense que c'est un bon choix qui combine les deux. J'ai choisi Yannick de Quentin Dupieux.
Ah, mais oui, Yannick. Je l'avais mis en mention très honorable, t'as vu ? Très honorable.
Moi, j'ai pris Yannick de Quentin
Dupieux. Il est incroyable.
Quentin Dupieux, c'est un réalisateur qui est quand même assez spécial. J'ai l'impression qu'il tourne un à deux films par an, il les enchaîne, il dure toujours entre 1h et 1h10. Et là, il est revenu avec Yannick, qui est peut-être son film le plus intimiste, le plus accessible à tous. Il n'y a pas d'éléments fantastiques, il y a juste la folie de l'écriture de Quentin Dupieux. C'est l'histoire d'une mauvaise pièce de théâtre qui est interrompue spontanément par un spectateur dans l'audience qui s'appelle Yannick, campé par mon incroyable découverte de cette année, Raphaël Quenard.
Il est sublime.
Qui est dingue et qui arrête cette pièce et qui dit voilà, j'aime pas du tout, vous avez gâché ma soirée, c'est moi qui vais prendre le contrôle de la soirée maintenant et on va réécrire la pièce ensemble. C'est délirant. Sur le papier, personne ne peut y croire, mais quand on voit le film, on se dit, mon Dieu, c'est un film qui fonctionne justement par la magie d'interprétation de Raphaël Quenard et la direction de Quentin Dupieux, qui est complètement surréaliste. Alors, effectivement, quand tu regardes ce film, tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi il n'y a pas un spectateur dans la salle qui peut envoyer un SMS à la police ? Tous les personnages sont stupides. Mais c'est ça qu'on aime dans ce cinéma. Et ça peut faire très peur quand on voit une affiche avec un acteur qu'on ne connaît pas et voir une durée aussi mince d'1h10. Mais quand tu regardes ce film et quand tu arrives à la fin, tu te dis, mais ça fonctionne en fait. Tout fonctionne.
Alors, je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis que ils ont pas passé des SMS machin, mais comment ça se fait qu'à la fin il se passe quelque chose ?
Oh, attention, spoiler de Vanessa sur la fin de Yannick. Alors effectivement, il se passe quelque chose à la fin, mais sur l'intégralité du film.
J'ai pas dit quoi.
Tous les spectateurs dialoguent avec Yannick.
Ah, mais complètement.
Voilà, ça parle du restaurant des pieds de cochon, ça parle de plein de choses. Je me dis mais c'est pas possible. On est quand même. En fait, la force.
De venir coucher chez la personne.
Exactement, c'est complètement surréaliste. Mais ce qui est très très fort, je trouve, dans le cinéma de Quentin Dupieux, c'est qu'il prend quand même un sujet très casse-gueule, c'est-à-dire le sujet de la prise d'otage. Je veux dire, dans l'époque dans laquelle on vit, je veux dire, on n'a pas envie de rigoler de ça. Et pourtant, il arrive à transformer le sujet de la prise d'otage en une absurdité. Et cette absurdité fonctionne, en fait. C'est-à-dire que tu regardes Yannick et tu te dis mais ok. La prise d'otage, le temps d'un film, ça fonctionne et c'est drôle. Donc, tant mieux, du moment que ça reste que du cinéma, je dis oui. Donc, Yannick de Quentin Dupieux, ça a été ma véritable surprise de 2023 et surtout, voilà, la découverte de Raphaël Quenard qui, j'ai l'impression, est en pleine ascension. On va le voir partout sur les prochaines années et qui d'ailleurs, petite anecdote, Quentin Dupieux vient de terminer le tournage de son nouveau film avec...
Dali
sort...
Un
autre film
sort,
après
oui.
Dali. Voilà. Eh oui, il enchaîne, Vanessa. Un autre film avec Vincent Lindon et Raphaël Quenard, justement.
Oh, wow.
Donc... Très curieux et très hâte, on va suivre ça évidemment de très près. On va passer à la catégorie suivante si tu le veux bien.
Mais bien sûr.
Donc la catégorie suivante après le cinéma de comédie, c'est le cinéma d'action. Donc là,
action,
tout est
aventure,
possible.
Attention.
Blockbuster et tout. Vanessa, je t'en prie.
Eh ben moi, j'ai des ex-échos. Je suis désolée, j'ai pas pu les départager.
Ah, c'est pas bien ça.
Ah bah oui, mais en fait, mon cœur va aux deux et ils m'ont pris aussi bien l'un que l'autre. Par différentes façons, j'ai Farang.
D'accord.
Et Gran Turismo.
J'en ai vu aucun, donc parle-moi-en.
Mais Farang, en fait, c'est l'histoire d'un jeune qui sort de prison et il a eu des petits problèmes avant et il y a un mec qui va lui tomber dessus et il va se passer un drame. Et il va s'exiler au Moyen-Orient. Et bah voilà, il va vivre un peu. Non, c'est pas au Moyen-Orient, pardon. C'est au Vietnam.
Au
voilà.
Vietnam, d'accord.
Il va s'exiler au Vietnam et il va rencontrer une femme. Il va avoir une petite vie, tout ça. Il va bien aller. Et on va lui proposer quelque chose à faire. Sauf que derrière, eh bien, il y a une histoire de vengeance. Et petit à petit, eh bien, lui. Il va se passer quelque chose aussi qui va faire que lui aussi va prendre les armes et l'action est incroyable.
Ça ressemble plus à un thriller dit comme ça.
Non, alors pas du tout parce que c'est vraiment comment je pourrais te dire ça. Il y a pas mal de combats.
D'accord, ok.
D'arts martiaux et c'est vraiment super bien fait. Franchement, j'ai été pris du début à la fin par ce film, qui est vraiment excellent. Les interprétations sont sublimes. J'ai fait le truc et puis j'ai découvert Nassim Liès.
Très bien.
L'acteur français, Nassim Liès, qui est incroyable. Je sais pas si t'as vu Les Nouveaux Riches sur Netflix.
Non, ben, pas
il du est
tout.
Dedans. Il a fait plein de petits films à côté. Donc là, bon, la grande série Nouveaux Riches. Mais. Non, c'est pas Amazon Prime. Bon, c'est pas grave. Mais.
En streaming.
Voilà, en streaming. Mais franchement, si tu as l'occasion de regarder Farang sur Canal+, il est arrivé sur Canal+, regarde-le parce qu'il vaut vraiment le détour. Et c'est un film d'action comme on aime, quand t'aimes le combat, les arts martiaux. Les combats sont super bien filmés, c'est ça aussi que je veux mettre en avant. Et tu as les combats de rue et les combats de survie. Et ça, c'est vraiment, vraiment super bien fait.
Et le deuxième film, du coup?
Eh ben, mon deuxième film, c'est Gran Turismo.
Et oui, avec Orlando Bloom, et avec
oui,
David Harbour. C'est...
Voilà, et franchement, ce film-là, il est prenant parce que tu as l'impression d'être dans le jeu vidéo. Et pareil, que le jeu vidéo est dans le réel.
D'accord.
C'est vraiment super bien fait. À un moment donné, tu es, par exemple, sur le circuit. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que, voilà, on est dans une académie, on est des jeux, les personnes qui jouent aux jeux vidéo, au Gran Turismo, à d'autres jeux de voitures. Et il y a un concours qui va être lancé pour, rentrer dans cette académie. Et cette académie de joueurs qui vont conduire des vraies voitures de course. Des vraies voitures pour faire des courses avec des grands, de grands comme les 24 heures du Mans.
Et tu as joué au jeu vidéo toi déjà ?
Oui, moi j'ai joué au jeu vidéo, j'adore ce jeu Gran Turismo. Je trouve que le réel est vraiment super bien fait et je trouve que d'avoir mis en avant et aussi le fait qu'il est en train de jouer et tout d'un coup, tu as la voiture qui apparaît. Il est pris comme si c'était réel. Et t'as la voiture qui l'englobe et c'est vraiment super bien fait. Et pareil, quand il est en train de faire la course, la vraie course, où il est en train de tester, eh bien là, pareil, on a l'impression que c'est avec le jeu vidéo et du coup, t'as les lignes qui sont tracées comme dans le jeu vidéo. Et lui, il suit, en fait. Il a cette candeur et en plus, c'est tiré de l'histoire vraie d'un vrai coureur et qui jouait, qui était geek et qui a grandi avec quoi. Moi je trouve ça excellent.
Donc on peut le mettre quand même dans la catégorie biopic.
Non, c'est Gran Turismo, c'est action aventure, c'est vraiment ce côté-là.
Et maintenant c'est à mon tour pour mon film d'action préféré. Je vais juste chanter le thème, c'est tan 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 tan.
Non, c'est pas vrai.
Mais bien sûr
mais
que
non.
Oui. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée réalisé par James Mangold.
Mais oui.
Cinquième et dernier volet de la saga. Alors, je pense, voilà, plaisir coupable peut-être. Je
non,
ne sais
il
pas.
Est bien.
Il est très
moi,
bien.
Moi, j'ai bien aimé. C'était aussi un plaisir coupable pour moi.
J'ai une grosse affecte pour le personnage. C'est un film, voilà que. J'ai l'impression qu'il a traversé ma vie, en fait, cette saga. C'est un personnage important, comme Han Solo, comme plein d'autres. Et effectivement, ce dernier m'a touché en plein cœur. Quoi. J'étais assez ému de voir Papy Harrison Ford, à 80 ans, faire des galipettes, sortir le fouet, conduire toutes ces voitures comme ça. Et surtout, voilà, avec un artefact qui est quand même plutôt intéressant, qui est donc le cadran de la destinée, ce fameux cadran d'Archimède, qui a une particularité liée au temps. Et si vous savez, ma passion pour Retour vers le futur, c'était le film pour moi. Donc voilà, c'est un film important, parce que c'est la conclusion de plus de 40 ans de cinéma. C'est aussi une façon de dire, voilà, adieu au personnage et de passer le flambeau à une toute nouvelle génération, une nouvelle génération aussi d'acteurs, puisque Phoebe Waller-Bridge prend ce flambeau et j'ai l'impression que c'est une actrice qui est importante à l'heure actuelle mais qui va l'être encore plus à l'avenir. Donc Indiana Jones et le cadran de la destinée, c'est quand même une véritable surprise, un plaisir jouissif, un plaisir coupable, je n'en sais rien, mais c'est un très bon moment familial, explosif et voilà, je pense que c'est aussi une belle conclusion. Tu l'as vu, tu l'as aimé.
Ah, je l'ai adoré, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Et puis, j'aime bien les nouveaux personnages qui sont arrivés, quoi. La fille et le petit garçon.
Oui, qui est français.
Mais oui, qui est français, bien sûr. Enfin, le petit garçon, il est grand quand même. Oui, mais bon, là, oui, oui. Mais c'est vrai que non, j'ai bien aimé ce duo. Et puis, Harrison Ford, voilà.
Mais quelle classe.
Harrison Ford.
Et Harrison Ford, on peut le dire quand même dans cette émission. Il est beau à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, 70, 80, il n'arrête jamais.
Non, il ne s'arrête pas, lui, en fait. Il est impressionnant. Et puis, c'est vrai qu'il y a des scènes, tu te dis, mais mon Dieu, bon, d'accord, il y a des doublures, il y a tout ça. Franchement, il faut le tenir, quoi. Il y a des moments, tu te dis, ah non, c'est lui, là.
Et pourtant, sur le papier, c'était quand même étrange. Faire un film d'action, d'aventure qui gravite autour d'un acteur de 80 ans, c'était quand même très risqué. Et au final, quand on voit le résultat, qu'importe s'il y a des doublures, s'il y a du numérique, le résultat fonctionne et on en est très très satisfait. Si tu le veux bien.
Et puis on retrouve des super personnages aussi.
Bien sûr.
Son meilleur ami.
Oui, Salah, que tu as rencontré en plus, l'acteur.
Oui, il est rencontré, il est génial.
Ah là là, qui est connu
aussi. John Rhys-Davies.
Mon rêve de le rencontrer. J'espère que ça arrivera un jour.
Prochainement. Il va revenir, t'en fais pas.
Ah, tu as des infos que je n'ai pas.
Je ne dirai rien, même bien. Sous la torture.
Si tu le veux bien, on va passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie histoire, avec un grand H. Qu'est-ce que tu as choisi, Vanessa ?
C'est très compliqué, histoire, hein, parce que...
J'avoue, j'ai un peu triché, mais ça, on en parlera
après. Ah, t'as triché.
Bien sûr.
Eh bien, moi, je vais...
Me dis pas Napoléon.
Non, L'Enlèvement. De Marco Bellocchio.
Ah, je ne l'ai pas vu, dis-moi.
J'ai adoré ce film, parce que je ne connaissais pas cette histoire des enfants juifs qui étaient enlevés par le pape à une époque, en 1800. C'est un truc de fou. Et ils étaient enlevés, on disait qu'ils avaient été baptisés. Mmh. Alors, pour la petite histoire, hein, c'est le petit garçon qui est baptisé par sa nounou, qui voit, oh, les pauvres, ils sont beaucoup d'enfants, il est tout seul, il est malade, donc je vais faire le signe de croix et le baptiser avec un petit peu d'eau. Et là, hop, c'est le baptême. Et cet enfant est enlevé à sa famille. Mais c'est un truc de dingue. Et mis dans un centre, il est tout jeune, quoi, il a 7 ans. Et il est envoyé dans ce centre qui est... qui est pris dans l'emprise totale du pape. C'est ses enfants, il va s'en occuper, et la famille à côté va être déboutée. On va leur dire non, il est baptisé, il doit aller avec le pape, c'est comme ça. Et c'est une histoire vraie, c'est tiré d'histoire vraie, c'est ça qui est assez fou. Ouais, et il y a vraiment eu ce côté où le pape avait tout pouvoir, les évêques, tout ça. Enfin, et t'as une famille, t'as tes enfants... Ton propre enfant qui t'est enlevé, et les interprétations sont incroyables. Le gamin est... c'est Enoa Salah qui joue le petit Edgardo.
C'est celui
Edgardo.
Qui est sur l'affiche, du coup.
Oui,
d'accord.
C'est lui. Il est incroyable. Et Edgardo, adulte, c'est Leonardo Maltese qui est aussi très, très, très bon. Et après, il y a les parents, quoi, et le pape Pie IX, qui est joué par Paolo Pierobon, et détestable à souhait, quoi. mais c'est vraiment ce qui s'est passé, et ça, c'est assez hallucinant. Et la mère Barbara Ronchi, qui joue Mariana Mortara, mais... Oh là là, mais tu as le cœur déchiré, quoi. Et quand tu vois des scènes avec le gamin qui est au début complètement endoctriné, eh bien, ne veut pas retourner avec ses parents. Il sent bien dans son truc. Et quand il voit sa mère, eh bien, il craque. Mmh. Et c'est bouleversant. Et tu te dis, oh mon Dieu. Et c'est une histoire vraie qui a donné lieu à une révolution que le peuple s'est rebellé et a dit, hop, le pape. Et donc, ils ont monté une armée. Ça a donné une guerre civile, pratiquement, contre le pape.
C'est un truc de fou, ouais.
C'est un truc de dingue.
Donc, ton film d'histoire avec un grand H, c'est donc L'Enlèvement, qui est disponible où ? Sur MyCanal ?
Je réfléchis. Attends. Je crois qu'il est sur MyCanal, mais j'ai un doute.
C'est fort possible.
Vérifier.
En tout cas, il arrivera sur MyCanal, comme
oui,
toutes les sorties récentes.
Je pense. Et puis, c'est Marco Bellocchio, quoi.
Ah oui, grande classe.
Hein, on a eu la série Esternonote il n'y a pas longtemps. Ouf. C'est vraiment un grand, grand monsieur. Donc, pour moi, c'est un grand oui pour lui.
L'Enlèvement pour Vanessa. Pour ma part, un film d'histoire avec un grand H. J'ai un peu triché parce que ce ne sont pas des personnages qui ont existé, mais le contexte a existé. C'est mon film préféré de l'année 2023. Il s'agit de Babylone de Damien Chazelle qui parle de cinéma muet, de la transition du cinéma muet vers le cinéma parlant. C'est une époque qui a existé, qui a été très difficile pour les comédiens qui étaient d'immenses stars à l'époque et qui se retrouvaient finalement à devoir parler devant une caméra, et on se rendait compte que c'était pas de si bons comédiens. C'est une histoire qui est bouleversante. Je trouve ça incroyable d'avoir choisi cette partie de l'histoire, parce que on ne la connaît pas. On parle toujours de cinéma avec les Spielberg, les grands acteurs et tout. Mais là, cette partie-là, cette transition, ce point-là est extraordinaire. Il y a Brad Pitt, il y a Margot Robbie, il y a Tobey Maguire. Il y a un casting extraordinaire. Et c'est Damien Chazelle qui l'a réalisé. C'est pour ça que j'ai choisi, d'ailleurs, dans l'introduction de cette émission, La La Land, puisqu'il s'agit du réalisateur de La La Land. Voilà.
Et t'as triché, t'as donné des petites infos dans ton intro.
Eh oui, il fallait trouver. Mais donc, oui, Babylone, c'est fou, parce que effectivement, ça nous montre cette ascension du cinéma. On le voit dès la scène d'introduction, avec une immense soirée de 20 minutes, avec plein de plans-séquences. Il y a la folie, il y a tous les excès, il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a de l'alcool. N'a surtout pas touché, d'ailleurs, et à consommer avec modération. Pas du tout. Et surtout, après un moment dans le film, il y a la chute. On voit justement la partie sombre d'Hollywood, Tobey Maguire qui emmène les protagonistes vers une soirée, mais tout ce qu'on n'a pas envie de voir, morbide, sale et tout, on se rend compte que finalement, le monde de l'artistique, le monde du cinéma peut être explosif et qu'à tout moment, on peut basculer d'un côté ou d'un autre. Et voilà, Babylone, pour moi, c'est un film qui complète tout, qui raconte tout. Et voilà, c'est mon film préféré de l'année 2023.
Mais c'est pas vraiment historique, hein. Enfin, si, juste l'histoire du cinéma.
C'est
en
l'histoire
fait.
Du cinéma.
L'ode au cinéma.
Bien sûr. Donc, mais c'est une période qui a existé et qui est arrivée à de vrais acteurs. C'est juste les personnages qui sont pas là. Mais il fallait que je le place parce que je savais pas à quel moment je pouvais placer Babylone, en fait. Donc, je savais pas. Je voulais parler de Babylone. Tu l'as vu, Vanessa?
Oui, je l'ai vu.
Alors.
Je suis un peu. Alors, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était explication du cinéma muet, tout ça. C'était vraiment fort parce qu'au début, tu te dis, mais elle parle, en fait. Mais non, en fait, c'est vraiment cette période-là. Après, peut-être les outrances. Et puis, il y a un truc que j'ai pas aimé, et ça, on en avait débattu, mais il y a une scène que je comprends
L'éléphant.
Pas avec. Non, avec Tobey Maguire.
Ah, ben justement, cette scène-là, c'est.
Eh ben moi, j'ai beaucoup de mal. En fait. Elle aurait pu être plus courte. J'avais pas besoin d'aller dans les tréfonds, dans les machins.
Une de mes scènes préférées.
je sais, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que pour moi, il y a eu un manque de cohésion. Je suis pas la seule à penser ça. À ce moment-là, je me suis dit, oui, d'accord, ok, ce personnage est important, mais pourquoi aller aussi loin dans les tréfonds?
Je pense que justement, c'était pour faire le parallèle. C'est l'autre face de la pièce. Au début du film, quand on voit la soirée des héros, des protagonistes, on les appelait comme ça, ça se passe en haut d'une montagne, tout au sommet d'une montagne, dans une immense demeure. Et ben justement, pour contrebalancer la soirée des méchants, ils l'ont fait dans le feu, dans le sous-sol.
Dans le sous-sol, dans le tréfonds.
C'est très manichéen. Il y a les gentils en haut, les méchants en bas. Et voilà, c'est très rouge, très sombre. Alors que là-haut, c'est très coloré, c'est très festif. Non, moi, j'ai adoré la mise en scène de Chazelle, et qui a une trentaine d'années à peine. Et il a fait Whiplash, chef-d'œuvre. Il a fait La La Land, chef-d'œuvre. Il a fait First Man, très bon film, pas chef-d'œuvre. Et il a fait Babylone, chef-d'œuvre, selon moi. Voilà, donc je pense que c'est un réalisateur extrêmement important qui...
Après, il s'est très bien joué avec les ombres.
Bien sûr. Et puis, c'est un amoureux de la musique. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'il nous parle de musique dans son cinéma. Et il en a envie. Et je trouve Margot Robbie magnifique. Brad Pitt, d'une classe incroyable. L'acteur principal, le personnage principal, Diego Calva, que j'ai découvert avec ce film, qui est formidable. Et à la fin, je vais pas spoiler, mais quand on voit ses larmes face à cet écran et qu'on voit justement que le monde d'avant ne sera plus le même après, ça m'a bouleversé. Je l'ai vu, le film, en janvier, au moment où il est sorti. Et je me rappellerai toujours. La séance se termine, je sors de la salle et je regarde ma compagne et je lui dis « Bon bah voilà, ça y est, 2023 a commencé, j'ai vu mon film préféré, ça y est, c'est fini. »
C'est vrai, tu me l'avais dit.
Ouais, il n'y en aura plus d'autres, c'est impossible de... Et j'y ai cru, j'y ai cru jusqu'à fin décembre et non, c'est Babylone, mon film préféré.
Ah, des fois, ça arrive que ça prenne vraiment aux tripes. Et c'est vrai que, te connaissant, ça pouvait que te prendre
mon amour du cinéma, un réalisateur que j'adore, Brad Pitt dans le film, c'est bon. Allez, on a tout.
C'est plus Margot Robbie.
Plus Margot Robbie, plus Tobey Maguire et j'en passe. Voilà. On passe à la catégorie suivante, qui est la catégorie drame. Donc là, ça va être un petit peu moins festif. Vanessa, je t'en prie.
Bah, tu dois t'en douter.
Attends. Le consentement?
Non.
Non? Ah?
Non, c'est en mention honorable, le consentement.
Alors, je vais essayer de deviner le film drame de Vanessa. Le drame de Vanessa, Anatomie d'une chute?
Non.
Non? Ah? C'est un truc... Le règne animal?
Non, bah, non, non, drame...
Je sais pas, je l'ai pas vu, donc je...
C'est hyper de claques.
C'est un film français?
Mais oui, on l'a vu ensemble.
On l'a vu ensemble, un film français. On a vu tellement de films ensemble, Vanessa.
Oui, c'est vrai.
Je ne sais plus. Je sais plus. Bah, dis-moi.
Un film qui m'a vraiment retourné et pourtant je l'ai vu qu'une fois. J'ai envie d'aller le voir une deuxième fois parce que je pense qu'il y a une deuxième lecture.
Il est encore en salle?
Une façon. Non, non, mais il est sur Canal+, par D'accord. exemple. Il vient d'arriver. C'est Je verrai toujours vos visages.
Ah, bien sûr, c'est vrai.
Il est incroyable.
Alors,
ce film.
Je ne l'ai pas vu avec toi, mais je me souviens de quelque chose, c'est que je t'ai croisé au moment où
t'allais voir
l'avant-première et tu m'avais dit la phrase suivante, tu m'as dit « Clément, ce film, c'est un must. »
C'est un film à César.
Tu m'avais parlé de ça et c'était l'avant-première où il y avait Miu Miu qui était présente.
Exact. Oui, Leïla Bekti. Et la réalisatrice.
Qui est la fille de Miu Miu d'ailleurs.
Mais oui.
C'est formidable. J'ai adoré ce film aussi.
Elle avait fait Pupille,
oui,
qui était incroyable.
Grand succès aussi.
Et là, Je verrai toujours vos visages. Ce qui est fou dans ce film, c'est que les acteurs ont le temps de parler comme au théâtre.
Oui.
C'est hallucinant. Ils ont un temps de parole et ce bâton de parole qui est entre eux, avec la justice restaurative, vraiment super bien fait, quoi. Moi,
et
je
puis
trouve
le
que
sujet,
c'est magnifique. Et le sujet, oui.
Presque inédit au cinéma, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Et c'est chouette, effectivement, tu le dis bien, parce que c'est un film que j'adorais également, c'est de voir... Tous ces acteurs français, il y avait Élodie Boucher, il y avait Léa Becti, il y a...
Gilles Lelouch,
Fred extraordinaire.
Fred Testo.
Oui, Raphaël Quenard, dont on parlait. Raphaël Quenard, qui a une petite scène dans le film.
Mais très, très marquante.
Très marquante face à Adèle Exarchopoulos, qui est formidable aussi.
Élodie Boucher.
Et oui.
Oh là là.
Mais c'est dingue. En fait, on voit tous ces acteurs qu'on connaît.
Quoi.
Et c'est là qu'on se rend compte que c'est des véritables acteurs, puisque finalement, c'est le film qui les sert ou les dessert. Je veux pas tirer sur l'ambulance, mais quand on sait que Gilles Lelouch a fait Astérix à côté,
ah oui.
Et quand on voit ce film-là, on se dit « Ah oui, effectivement, on est quand même sur deux ambiances différentes. Donc, » Donc non, un film magnifique, bouleversant, très dur à revoir. Je sais pas si je le reverrai
oui,
une deuxième fois.
Oui, c'est ça.
C'est comme le consentement,
je sais
pas.
C'est ça que je me dis, c'est très très dur à prendre, mais c'est un film nécessaire et très beau. Et je trouve les interprétations, mais d'une classe
bien sûr.
Totale.
Et on n'est même pas sur un grand film de réalisation ou de mise en scène. En réalité, le cœur de ce film, c'est les dialogues, c'est l'échange.
C'est ça.
Donc en fait, tout tourne autour de ça. C'est un huis clos sur un face-à-face, plan champ contre champ. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce film.
C'est fou. Et puis en plus, c'est ce qui se passe dans la justice restaurative. Mm-hmm. Quoi. Quand ils sont en cercle et ils discutent entre eux, les personnes qui sont coupables, qui ont fait des choses... ceux qui ont été, les agresseurs et les agressés. Et ça, c'est incroyable. Et ils grandissent ensemble.
Tout à fait. Alors, pour ma part, mon film drame préféré de l'année 2023, c'est un film français sur le papier, mais avec un casting américain. J'ai choisi The Son de Florian Zeller.
Ah oui, magnifique.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que Florian Zeller avait donc fait The Father, qui a été un immense succès adapté de la pièce de théâtre du même nom, toujours par Florian Zeller. Et là, il s'est attaqué à The Son en reprenant Anthony Hopkins à un moment donné dans le film. Mais cette fois-ci, c'est Hugh Jackman et Laura Dern qui jouent les parents de ce petit garçon en mal-être, en dépression. Et eux, ils sont face à une situation qu'ils ne comprennent pas. C'est un nœud qu'ils n'arrivent pas à démêler. Et ça m'a pris au trip, c'est-à-dire que je ne me reconnaissais pas dans les personnages, mais j'ai été pris dans cette histoire parce que j'ai vraiment cru à la sincérité du jeu d'acteur des parents, j'ai vraiment cru qu'il s'agissait des parents de ce gamin, et je sais que les gens, de manière générale, ont moins aimé The Son par rapport à The Father, parce qu'Anthony Hopkins était magistral dans ce premier long-métrage, mais dans celui-là, il y a une sincérité dans les faiblesses de jeu de l'acteur du jeune homme qui joue bien et à la fois pas trop. C'est très étrange, c'est très étrange et ça me fait de la peine parce que on sent la volonté des parents d'aider ce gamin et ce gamin qui n'arrive pas à s'en sortir.
Qui est complètement perdu.
Qui est perdu et ça sombre et en fait.
Il y a une scène très forte quand il danse.
Quand il danse et on a l'impression
c'est horrible.
Quand on voit cette scène de danse, on a l'impression qu'il s'agit d'une résolution.
Ouais.
Ça, pendant un instant, c'est une parenthèse dans l'histoire. On se dit il y a peut-être une chance de...
Un espoir.
Un espoir, exactement. Et au fur et à mesure que le récit avance, on va vers une fin qui nous semble inévitable. En fait, on espère fort pendant tout le film que cette fin n'arrive pas. Et quand elle arrive, c'est un choc, en fait. En plus, je pense que ceux qui l'ont vu savent, enfin, vous savez de quoi on parle. Il y a un son très fort qui retentit dans la salle de cinéma. Et je me souviens, quand le son a retenti, toute la salle de cinéma a sursauté en même temps. On a tous fait le même geste d'épaule et on s'est dit, voilà, bon, c'était la fin. On savait que ça allait arriver, mais on voulait pas que ça arrive. Et il y a ce plan final de Hugh Jackman au sol et qui conclut le film, quoi. Genre, ça se termine sur ça avec un générique de fin. On sort de là et on souffle. Et on souffle. Il y a deux films qui m'ont fait ça cette année, donc c'est The Son de Florian Zeller et Le Consentement. On sort de la salle, on se dit, mon Dieu, c'était éprouvant. Le Consentement, à l'inverse, c'est un film que j'ai vu une fois que je voudrais jamais revoir de ma vie parce que c'était beaucoup trop éprouvant.
Ah, il est horrible.
Alors que The Son, c'est quelque chose que... C'est un film essentiel, je pense aussi, quand même, quelque part. Tout comme Le Consentement,
oui,
c'est des films qui peuvent peut-être aider d'autres personnes. Et je pense que, à mon goût, enfin... C'est peut-être pour moi le meilleur Florian Zeller, plus que The Father, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il est... The Son, il est prenant. Il te prend aux tripes et il te lâche pas, quoi.
Ah oui.
Il te lâche pas et il te fait... En plus, à te demander, en fait, si c'est la vraie fin. Mais tu sais pas, en fait.
Et pour reprendre tes termes, c'est peut-être même une note d'espoir. À la fin, on se dit « Ah !» Et peut-être que là, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une résolution ? Et en fait, on se dit « Bah non !» Non, il n'y a pas de résolution dans cette histoire.
C'est ça qui est... C'est vraiment le drame de chez drame, quoi. En mention honorable, tu as The Whale.
The Whale de... Oui, de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser.
Yes.
Très, très beau
un
film.
Un
retour de Brendan Fraser qui est revenu deux fois cette année dans The Whale et Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese. Ouais. C'est pareil, The Whale, c'est un film qui est difficile à regarder. Vraiment, on l'entend respirer, cet acteur. C'est un film, franchement, je pense qu'il ne fonctionne qu'au cinéma.
Oui.
Parce qu'il faut être enfermé dans cette histoire. Il faut être dans le noir. Il faut regarder cet écran et avec le son du cinéma, l'entendre respirer, l'entendre... Je sais pas, il y a quelque chose dans son jeu, dans sa démarche et ça fait de la peine parce qu'on peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec l'acteur qui a vraiment souffert dans sa vie et qui là revient avec un rôle où il montre toutes ses souffrances, toutes ses faiblesses. Et effectivement, oui, tu as raison Vanessa, The Well, c'est un film aussi à noter. Je le mettrai dans mes mentions honorables. Voilà, ça y est, je l'ajoute.
Et t'as Noémie Dioui aussi, qui est un film très très dur, très compliqué sur la prostitution des mineurs.
Ouais.
Mais très très... incroyablement fait et pas du côté plus du côté des clients en fait que des jeunes et on voit un côté très très compliqué. Et pour une anecdote, la réalisatrice m'avait raconté il y avait un de ceux qui jouait un des acteurs qui jouait un des clients qui faisait ça en fait. Qui était un client d'une prostituée et elle lui a fait remonter, elle lui dit « Mais tu l'as à ton casting ?» Alors que lui, il fait ça. Et que voilà, je l'ai enlevé de ma liste parce qu'il était horrible, quoi. Et coup, la réalisatrice l'a coupé au montage et avant la
diffusion.
Diffusion. Et du coup, l'a coupé au montage, a rencontré l'acteur, lui a parlé et lui a expliqué pourquoi. Et voilà. Enfin, c'est
fou. Une belle anecdote, hein.
C'est complètement fou. Et quand elle nous avait raconté ça, la réalisatrice, c'était assez hallucinant, quoi.
On essuie nos larmes et on passe à la catégorie suivante avec un petit peu plus de magie. Fantastique, science-fiction. Quel est ton film préféré de fantastique, science-fiction de 2023, Vanessa ?
C'est Le règne animal.
Évidemment. Alors,
ah bah oui.
Ça m'énerve. Tout le monde me parle de ce film. Je l'ai loupé au cinéma.
Il est magnifique ce film. Il est somptueux. Romain Duris, je ne l'ai jamais vu aussi prenant, aussi touchant, aussi fort. Et le jeune qui joue avec, mais c'est une pépite ce gamin. Il est tellement fragile et tellement dans l'émotion et le duo fonctionne du feu de Dieu, quoi. Et Adèle et Exarchopoulos en gendarme, j'adore. Et ce côté, cette explication de, voilà, il y a une épidémie et du coup tous les gens peuvent se transformer en animal et retrouver leur instinct animal et avoir le visage. Donc il y a un travail de maquillage, d'effets spéciaux, il y a des personnages très fort, l'oiseau, enfin le jeune qui est transformé en oiseau et qui sait pas voler, qui a des problèmes et donc du coup l'autre va l'aider. Je trouve qu'il y a une très belle image de solidarité et en même temps de famille.
Alors j'étais très attiré par ce film et à la fois j'avais très peur parce qu'en voyant la bande-annonce, je me suis dit mais est-ce que c'est le cinéma français qui tente de faire du cinéma américain ? Est-ce que c'est les X-Men à la française ?
Non, pas du tout.
Et en fait, de ce que j'ai entendu des retours, effectivement, ça a son identité. C'est un film à part et je suis vraiment très content. Tu vois, je ne l'ai pas vu, mais je suis très content de savoir que le cinéma français a des ambitions comme ça. Il ose des trucs, prendre une prise d'otage pour Yannick, faire du cinéma fantastique de mutants presque avec le règne animal. Et pousser les choses.
Un film d'horreur avec vermine.
Avec vermine, avec les araignées. Je veux dire, il y a quelque chose d'ambitieux et je suis content que le cinéma français aille dans cette direction-là et qu'on arrête un peu avec ce cliché de le cinéma français, ça n'est que des comédies avec Christian Clavier. Donc, je suis très content.
Stop, il faut laisser tomber ce truc-là. Il faut voir que c'est Paul Kircher, le jeune. Et franchement, une vraie pépite. Je pense qu'il ira très loin.
On m'a parlé d'une scène dans la voiture qui était très importante.
Ah là là, elle est magnifique cette scène.
Ah bah écoute.
Elle est magique et quand il cherche la maman aussi. Parce que la maman s'est transformée en un animal et donc voilà. Et ce jeune, il va se passer quelque chose et le père va être complètement perdu face à ce gamin. Et il y a aussi la crise d'ado.
Oui.
Tu sens cette crise d'ado, mais la crise d'ado va se répercuter d'une autre façon.
Et j'allais dire, on passe à la catégorie suivante, mais pas du tout. Moi, je n'ai pas donné
t'as pas donné ton favori.
Et mon film de fantastique science-fiction de l'année 2023 préféré, essayez de remettre les mots de cette phrase dans l'ordre cette fois-ci, il s'agit d'un film de mon réalisateur préféré de tous les temps, M. Night Shyamalan. Il s'agit de Knock at the Cabin, qui est sorti en février.
Je ne l'ai pas vu.
Super, je pourrai en parler.
Je ne l'ai pas vu.
Qui est disponible sur ma canal d'ailleurs. Knock at the Cabin, c'est donc un film du réalisateur de Sixième Sens, Cinq à Sable, Signe, Le Village. Voilà, c'est mon réalisateur préféré. Voilà, je vais le redire 5-6 fois durant cette partie-là. Knock at the Cabin, l'histoire en gros, c'est une famille, deux papas et une petite fille qui prennent des vacances dans un petit chalet. Voilà, tout se passe bien au début. Puis tout d'un coup, il y a quatre personnes qui arrivent, qui débarquent dans leur chalet, qui cassent les fenêtres, qui rentrent à l'intérieur, qui les prennent en otage et qui vont leur dire la phrase suivante, c'est « Vous allez devoir faire un choix horrible, sacrifier l'un de vous trois, au hasard, pour empêcher la fin du monde. » Voilà. Si vous tuez l'un de vous trois, on sera tous sauvés. Si vous refusez, le monde entier va mourir. Et donc là, c'est la question que le film va poser. La croyance. Est-ce qu'il faut croire justement des gens qui débarquent chez vous et qui vous balancent cette information très étrange ? Et tout le film, on va se questionner, on va se dire, c'est vrai ou pas ? Et le seul moyen de vérifier un peu cette source-là, c'est d'allumer la télé, regarder les informations et voir la télévision te dire, il y a eu un séisme quelque part dans le monde, là, il va y avoir un tsunami. Et là aussi, ça pose une autre question sur notre réalité, c'est est-ce qu'il faut croire absolument tous les médias ? Est-ce qu'il faut croire absolument tout ce qui se passe à la télévision ? Donc, ce qui est magnifique avec le cinéma d'M. Night Shyamalan, c'est qu'il n'a pas le budget d'un blockbuster. C'est-à-dire qu'il te fait un film sur la fin du monde, mais le film se déroule dans une cabane dans les bois, avec juste la télévision. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de gros tsunami. Tout ce qu'on a, c'est la télévision qui nous montre ça. Donc, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Réponse à la fin du film. Et j'ai adoré. C'est 1h45 de film où on est pris, on se dit mais comment c'est possible de s'en sortir ? Et d'ailleurs, petite anecdote, parmi les quatre personnes qui rentrent dans la maison, il y a Rupert Grint qui joue Ron Weasley dans la saga Harry Potter et là qui revient dans un rôle de mec malsain quoi, qui frappe les gens et qui les séquestre. Dis donc Ron, il est parti quoi. Et donc c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de voir Shyamalan avec ça et il reviendra l'année prochaine dans un film que j'attends énormément, pareil, un huis clos. Donc c'est une belle surprise. Un thriller fantastique, science-fiction, voilà.
Ah oui, mais... Il a l'air hyper intéressant. Tu m'as dit qu'il était où, celui-là ?
Sur My Canal, Knock at the Cabin. Voilà, ça veut dire en gros toc-toc sur la porte, dans l'idée.
J'ai vu Léo faire ça, toc-toc.
C'est ça. On passe à la catégorie suivante ?
Oh bah oui.
Alors, qu'est-ce que c'est la catégorie suivante ? Je prends mes petites notes.
Biopic.
Biopic, évidemment. Vanessa.
Bah oui, biopic.
Tu as ton biopic ?
Bah là, c'est pareil, hein, c'est compliqué.
Oh non !
Comment tu veux que je choisisse entre deux films complètement différents ? L'un au début de l'année et l'autre dans l'été. Moi, je peux pas choisir entre les deux.
Il y a le consentement dans l'histoire ?
Non.
Ah, bah, décidément, je vais essayer de le placer à chaque
mais
fois.
Mais non, tu... Non, le consentement, je t'avais dit que c'était dans le drame.
Ah oui, oui. Bon, enfin, tout est possible. Hein. Tu peux le placer partout, dans biopic, dans
oui,
drame.
Oui, tu peux le mettre partout. Bah, il y en a, tu peux les mettre un peu partout aussi. Non, quand même pas. Bah. Quand même pas, excusez-nous. Non. Bon, allez. Le biopic, bah, tu vois, je t'ai dit, j'en ai deux parce que je peux pas faire autrement. Donc le premier que j'ai vu, c'était en février, et enfin moi je l'ai vu avant, c'est The Fabelman. Mm-hmm. Pour moi, je trouve que c'est une magnifique ode au cinéma et qui raconte bah, la jeunesse de Steven Spielberg. Et c'est un incroyable réalisateur que j'affectionne énormément, et de voir cette histoire, moi j'ai été prise du début à la fin.
Et ouais. Bah, c'est le mien aussi, c'est The Fabelman.
Ah, ça suffit.
C'est The Fabelman que j'ai choisi en biopic, puisque voilà, pareil, une passion pour Steven Spielberg, et j'ai adoré ce film parce que c'est un film très intime, personnel, dans lequel il se livre à 100%, et c'est un film qui est honnête. Au début, effectivement, on pourrait penser sur le papier qu'il s'agit d'un film un peu égotrip où il se la raconte, mais pas du tout. En réalité, il se dévoile, il se confie, et c'est ce qu'il a toujours fait dans son cinéma. Et je me suis rendu compte, quand tu regardes par exemple E.T., c'est une famille où les parents sont divorcés, où il y a un problème avec la maman, et quand on regarde The Fabelman, on se dit « Ah mais oui, effectivement, là aussi c'est pareil. » C'est-à-dire que Spielberg, il a tellement mis de lui-même un petit peu partout, distillé dans tout son cinéma, que là, il rassemble toutes les pièces dans un seul long métrage, qui est The Fabelman, et qui, au fait, au-delà d'être un film sur la jeunesse de Steven Spielberg, c'est un film sur comment faire du cinéma quand on part de zéro, quand on n'a qu'une caméra, quand on a deux, trois bouts de ficelle et qu'on peut essayer de bricoler quelque chose pour en faire le résultat qu'on connaît, quoi. Et donc, effectivement, on le voit avec sa caméra Super 8, en train de travailler et en train de voir son amour pour le cinéma grandir, de voir son imaginaire s'agrandir et trouver des idées. Et en fait, on voit ce petit garçon tomber amoureux du cinéma, et au fur et à mesure que le récit avance, il commence à devenir le Steven Spielberg qu'on connaît, et le film se conclut là où tout va commencer. Et je pense que c'est quand même peut-être The Fabelman, finalement, le préquel de la filmographie de Spielberg. Tu regardes The Fabelman et juste après, tu enchaînes avec sa filmographie, tu dis voilà, c'est une suite cohérente, c'était les prémices, c'était le début, et c'est pour moi le biopic de cette année. Voilà. Je t'ai pris la parole, mais parce que
je suis d'accord avec toi, il est magnifique. Et puis l'interprétation de Michelle Williams.
Ah oui, qui joue la maman.
Qui joue la maman. Moi, j'adore cette actrice.
Paul Dano qui joue le papa aussi.
Oui. Bah, Paul Dano, oui, aussi pareil. Et puis l'oncle. Jude Hirsch.
Oui.
Oh là là.
Ah ouais, non, mais c'était un film magnifique. Pour moi, il y a eu Babylone, The Fabelman, et un troisième film qui m'a moins plu, mais qui fait quand même partie de l'histoire du cinéma, c'était Empire of Light de Sam Mendes.
Ah, magnifique, Empire of Light.
Mais ouais, mais il s'est pas retrouvé dans ce top. Voilà, c'est comme ça.
C'est un peu compliqué de faire le film préféré, machin, que si t'aurais mis comédie romantique, il y serait peut-être.
Bien sûr, ouais, c'est possible, mais drame romantique, je sais pas. Mais je trouve que ça a été 2023 une année de déclaration d'amour au cinéma. C'est peut-être une année nostalgique, en fait, finalement. On parle de la jeunesse de Spielberg, on parle du cinéma muet dans Babylone, on parle de l'amour de la salle de cinéma dans Empire of Light. Il y a une vraie déclaration d'amour, je trouve, en 2023. Ça a été une année qui a été exceptionnelle, et je suis content qu'on partage le même film. Tu vois, au début, on se dit non, pas Barbie, tout ça. Et là, on se retrouve avec Fabelman en commun sur ce biopic. Donc,
j'en avais un deuxième.
Bah, vas-y.
Il y avait mon ex-écho, il y a Oppenheimer.
J'ai pas aimé Oppenheimer.
Ah putain, tu m'énerves. J'ai adoré ce film.
Ah, je fais
Christopher Nolan, il m'a accroché, mais complètement. Alors que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec le cinéma de Christopher Nolan.
Et moi, c'est tout l'inverse.
J'ai dit que des fois, j'avais...
Moi, j'adore le cinéma de Christopher Nolan.
J'adore quand on se retrouve comme ça. Mais je trouve Cillian Murphy, mais somptueux. Et puis cette histoire, franchement, tu sais... Mais t'as des tenants et des aboutissants que tu ne connais pas. Et il y a des interprétations, mais mémorables, quoi. Emily Blunt aussi.
Oui, Robert Downey Jr.
Et Robert Downey Jr., quoi. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est vrai qu'il avait commencé avant les Avengers, tout ça, Iron Man, il faisait...
Il a joué Charlie Chaplin dans le biopic de Chaplin en 92, oui. Mais alors, c'est marrant parce que moi, je vais prendre tous tes mots et je vais les inverser.
Ah, je vais te tuer.
Je trouve Cillian Murphy... fadasse. En fait, je n'aime pas cet acteur.
Là.
Je trouve je vais pas dire qu'il a un manque de charisme, mais je trouve qu'il a quand même une mono-expression un peu comme Ryan Gosling, c'est-à-dire qu'il fait souvent la même tête. Christopher Nolan, c'est un C'est un excellent metteur en scène. Je trouve que ce qu'il fait avec Oppenheimer, c'est brillant. Le noir et blanc, le truc de la bombe, le moment où la bombe explose et tout, le travail sur le son, le montage, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais je trouve, de manière personnelle, en fonction de ma sensibilité, et ça reste que subjectif évidemment, c'est que c'est pas un sujet passionnant. En fait, moi, ça, désolé, je vais être un peu cru, mais moi, j'en ai rien à faire du mec qui a fabriqué la bombe atomique. Voilà, c'est une question de sensibilité, quoi. Mais je vois Léo, notre cher Léo technicien, qui me regarde avec avec entre dégoût et tristesse. Il se dit, moi, j'aime beaucoup Christopher Nolan.
Je n'ai pas vu le film, donc je ne peux rien dire.
Mais
l'argument par rapport au sujet, j'ai un peu de mal à
t'y intéresser.
Non, justement, à comprendre qu'on
puisse pas s'y intéresser.
Enfin, voilà, qu'on puisse trouver...
Bon, ok, d'accord, le film, il dure 3h07, mais moi, j'ai pas vu passer les 3h07. Ben, en fait, et en plus, je l'ai vu en version originale sous-titrée et j'étais le revoir en version française.
Oui, mais je veux dire, en fait, le problème que j'ai, c'est que Christopher Nolan, j'ai l'impression qu'il prend quelque part, pas des sujets de niche, mais des sujets qui sont... Que personne ne pense, en fait. C'est-à-dire que, je veux dire, avant Oppenheimer, je pense que la majorité des gens ne savaient pas qui était Oppenheimer. Avant l'histoire de Dunkerque, pas tout le monde était passionné par Dunkerque. Mais en fait, Nolan prend ça. Et j'ai souvent l'impression, et tant mieux, parce que ça fonctionne, que les spectateurs vont d'abord voir un film de Christopher Nolan parce qu'il s'agit de Christopher Nolan. Mais croyez-moi que Oppenheimer, réalisé par Fabien Otoniente, le réalisateur de Camping, personne ne va le voir parce que les gens, ils veulent voir Christopher Nolan. Donc je pense que vraiment Christopher Nolan, si demain il nous fait un blockbuster de 4h30 sur l'histoire de la pantoufle et la charentaise, il y a tout le monde qui va se prendre de passion pour ça. Mais tant mieux, il est trop fort en fait.
Ça va être excellent.
Mais ça va être excellent, quoi. Je veux dire, on va tous sortir, ouais, la pantoufle, c'est incroyable.
Mais attends, il a sorti des acteurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps.
Mais
moi, Josh Hartnett, je le trouve excellent, quoi.
Josh Hartnett, ah, c'est le moment. Josh Hartnett qui va jouer le rôle principal dans le prochain film de M. Night Shyamalan, qui sera un huis clos dans une salle de concert entre un père et sa fille. Voilà, je l'ai placé. Mais...
Et ben voilà, et ben tu vois, il est revenu.
Il a un
et
petit
moi,
rôle.
Je trouve, bah oui, oui. Même s'il
Rami
a un
Malek
petit
aussi,
Rami Malek, ouais. Pareil. Enfin, il y a un casting Florence Pugh qui est
alors,
incroyable aussi.
Petite correction, elle l'a dit en interview. Pug. C'est
Pugh.
C'est Florence Pugh.
Alors, Florence Pugh, je ne savais pas.
Mais moi non plus, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je ne disais pas.
Je suis désolée, c'est écrit P-U-G-H.
Oui, mais moi
donc
aussi,
tu essayes de ne pas écorcher Pugh.
Ah oui, c'est le G-H qui.
On va l'appeler Florence.
Florence, voilà.
Florence. Mais je suis d'accord. En fait, je comprends le succès d'Oppenheimer. Il est mérité parce que c'est un très bon film. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui est excellentissime. Et pour ce qui est de l'histoire de la bombe atomique, il le raconte super bien. Il le met super bien en scène. Mais voilà, moi, ça ne m'a juste pas du tout intéressé. C'est pas grave. Pour moi, Christopher Nolan, son top, c'est Interstellar. Il ne fera pas mieux. Fin du débat.
Ouais, c'est vrai. Ah oui, t'es buté.
Ah ouais, non mais c'est une question, je vois, c'est vraiment une question d'intérêt.
Et ben moi, ça a battu Interstellar. Oh, je suis désolée. Ah ouais, moi, j'ai adoré. Et je suis prête à le revoir encore. Là, tu vois, il est sur... Non, attends. Si, je crois qu'il est... Non. Où il va arriver sur Canal, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir.
Il y est sur Canal.
Merci. Donc il est sur Canal, donc du coup je vais le revoir.
Ben peut-être qu'il faudrait que je le revoie, peut-être que ça va me passionner cette fois-ci, mais j'ai un peu de mal. Mais vraiment cette année 2023, j'ai été quand même très buté parce qu'il y a plein de films que les gens ont adorés. Je suis passé à côté le Barbie, le Oppenheimer, je comprends pas. Et même alors mais pire encore, le Scorsese que j'ai trouvé super bien. Mais pas le chef-d'œuvre auquel j'attendais. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai bloqué là-dessus.
Il m'a manqué quelque chose.
Ouais. Je trouve le film excessivement long pour ce qu'il a raconté. Je me vois mal le revoir de suite après. On passe à la catégorie suivante.
En biopic, j'ai juste une mention honorable. J'ai l'abbé Pierre.
Ah, je l'ai pas vu, mais j'avais très envie de le voir avec.
Incroyable avec Benjamin Laverne, qui est somptueux, qui est époustouflant. Mm-hmm. Et Emmanuel Berco aussi, qui est incroyable. Qui est sa compagne, son Jimmy Lee Cricket, je vais appeler ça comme ça. Et je trouve que c'est super bien fait. Et on voit le cheminement de l'abbé Pierre de sa période de soldat jusqu'à son trépas.
Ah bah écoute, je note l'abbé Pierre, j'avais très envie de le voir, mais il est passé pareil. Je pense qu'il a une sortie assez mince et il est pas resté très très longtemps en cinéma. On passe à la catégorie suivante parce qu'il nous en reste deux.
Oui.
Les films d'animation.
Ah bah oui.
Alors toi, t'en as vu pas mal, moi j'en ai vu que deux, donc ça a été très facile à choisir. Je t'en prie, Vanessa.
Ah bah moi en premier, c'est mon coup de cœur et je l'avais dit en sortant et j'ai été le voir 5 fois hein, parce que j'ai des enfants
Je sais.
Que mon fils l'adore et qu'il n'y a pas plus fort parce qu'à chaque fois on peut le regarder, je crois que toutes les semaines on doit le regarder, c'est Super Mario Bros.
C'est le mien aussi.
Ah, tu m'énerves! Vas-y, commence si tu veux.
Ah bah, Super Mario Bros, pour moi, c'est une véritable surprise. Bah, déjà, c'est fait par le studio Illumination.
Ouais.
Donc, beau travail. C'est vraiment un studio grandissant qui sont en train de faire des projets magnifiques. Super Mario, c'est toute ma vie. Je jouais encore hier soir à Mario Kart. Il y a 2 jours à Mario Party. J'ai joué sur une Nintendo 64, petit, la Game Boy Color et ainsi de suite. C'est un personnage qui a traversé toute mon histoire. Et c'est pas parce que je porte la moustache aujourd'hui non, pour lui rendre hommage, c'est juste que voilà, je sais pas pourquoi Mario, c'est un personnage qui me plaît, qui me parle, qui est une Madeleine de Proust. Et là, pour la première fois, on lui a donné réellement une voix, une personnalité. On arrête avec les « Là, c'est vraiment quelqu'un qui l'incarne et c'est Pierre Tessier. Et c'est quand même très important de le noter, Super Mario Bros. A fait finalement sa meilleure publicité autour de son doublage. Dès la première bande-annonce, tout le monde a été admiratif, même les Américains, de la voix française de Mario et des autres personnages. Et on a reconnu que le doublage français était quand même finalement de très très grande qualité, de bonne facture. Et les fans, très dévoués, fans de doublage, ont dit sur Internet, on ne veut que des comédiens spécialisés dans le doublage.
Et c'est eux qui l'ont eu.
Et c'est eux qui l'ont eu. Et
il n'y a pas eu de stars.
On a eu très très peur. Il y a eu des rumeurs sur Internet qui disaient McFly et Carlito pour faire Mario, ouais, et Luigi. Et finalement, bah non, c'est Pierre Tessier qui fait Mario, c'est Benoît Dupac qui fait Luigi, c'est Audrey Sourdif qui fait la princesse Peach, c'est Covillo qui fait...
Jérôme
Covillo, c'est ça?
Jérémy Covillo.
Qui fait Bowser. Je veux dire, on a quand même le gratin du doublage français sur ce film. Le doublage est excellent, le film est chouette, il y a une musique dedans, c'est qui a fait rire tout le monde. Je trouve que c'est le vrai film d'animation familiale à voir et c'est une véritable surprise, quoi. Donc,
oui. Vive et la puis plomberie. On a une vraie.
C'est la seule.
Pas une qui se fait attraper. Ah, horrible machin. C'est une combattante.
La princesse post-MeToo féministe 2023.
Ouais, c'est
le seul personnage qui a changé de l'univers. Mais tant mieux. Et c'est très très bien.
C'est génial.
Et c'est très très bien. Je trouve que c'est ça n'a pas dénaturé l'œuvre qui était Mario en jeu vidéo.
Non,
et surtout,
puis il y a plein de références.
Ça a tout rassemblé. Il y a Mario Kart, il y a Donkey Kong, il y a la totale. Moi, j'ai adoré Super Mario Bros.
Et Donkey Kong, le chef des Donkey Kong, c'est quand même Nicolas Marié.
Mais oui, tout à fait.
Ah oui.
Acteur césarisé pour Adieu les cons. Non, mais c'est formidable. Non, mais vraiment, le casting doublage est extraordinaire et le film est très bien. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, je pense que si vous avez été joueur des jeux vidéo dans votre jeunesse ou même encore, vous allez retrouver absolument tout ce que vous aimez. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé... Il y a des gens qui sont spécialisés que dans Mario Kart. Vous inquiétez pas, il y a du Mario Kart. Il y a des gens qui sont spécialisés dans Super Mario 64. Vous inquiétez pas, il y a le château, il y a tout ça. Tout y est, tout est rassemblé. C'est un vrai film pour les fans. Et pour ceux qui ne sont pas fans, vous allez quand même passer un super moment. Donc moi, Super Mario Bros, c'est mon film d'animation de l'année. J'ai trop envie de voir une suite avec Yoshi, peut-être. Voilà.
Après, j'ai juste une mention honorable parce que j'ai été bluffée par ce film. C'est Le Château solitaire dans le miroir.
Ah, j'en ai entendu.
Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Si.
Alors, il est sorti à un moment où ce n'était pas évident, début septembre.
Mm-hmm.
Et à la rentrée, c'est pas évident pour aller au cinéma pour les jeunes, les ados, tout ça. Mais ce film est assez fort parce que c'est sur le harcèlement scolaire et sur le fait. Moi, un film d'animation qui fait sur le harcèlement scolaire, j'en connais pas beaucoup. Et surtout avec cette histoire magnifique où ces jeunes se retrouvent grâce à un miroir dans un château et ils ont une quête. Découvrir une clé, et s'il découvre cette clé, eh bien, elle peut ouvrir une porte et un de leurs vœux peut se réaliser. Et petit à petit, on va voir que chacun d'eux a un problème de harcèlement scolaire, ne va plus à l'école, est vraiment en dépression et ne veut plus aller avec les autres, et ils vont se reconstruire. Et je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve que c'est très bien fait, il y a des très belles images, il y a un très bel univers et une très belle morale.
Bien, c'est noté. Moi aussi, tant qu'à faire, je vais faire une mention honorable et parler de mon deuxième film, c'est le Spider-Man Across the Spider-Verse, qui
Je pensais que ça aurait été ton premier, tu vois.
Écoute, maintenant, parce que je trouve que c'était important de mettre Mario. Spider-Man, le problème, c'est que c'est quand même aussi un film qui est déjà la suite d'un autre, qui se retrouve au milieu d'un autre film qui va arriver après. Donc, j'ai du mal à le voir comme une entité à part. Indiana Jones, je l'ai mis parce qu'il s'agissait de la conclusion. Mais en fait, en réalité, il faut parler de ce film de Spider-Man parce qu'on est en train de pousser le film d'animation dans un autre univers, quoi. Là, on réunit une centaine de milliers de Spider-Man en animé, avec le dessin vintage, en 3D, en mais super 3D. À un moment donné, on voit même Andrew Garfield et Tobey Maguire apparaître physiquement. On se dit, mais ça y est, on est en train de mixer tout comme l'a été à une époque le Qui veut la peau de Roger Rabbit ou Space Jam, où on mélangeait comme live action et animé. Là, on mélange tout, animé, live action, 3D. Et je pense que le troisième film qui arrivera juste après celui-là va être encore plus dingue et je pense que c'est des films qui sont importants et qui montrent aussi le changement dans le cinéma d'animation. Donc voilà, le dernier Spider-Man. Et pour conclure, et oui, on arrive à la fin de l'émission, le film de comédie musicale préféré, je sais pas pourquoi, d'instinct.
On a le même. On a le même. Je crois qu'on a le même.
Un, ça aurait pu être.
Deux, trois. Wonka.
Et voilà, Wonka de Paul King, qui est donc la surprise qu'on n'attendait pas de fin d'année. C'est sorti en décembre. Et ça aurait pu détrôner Babylone. Wonka, je l'ai vu 4 fois au cinéma.
Waouh!
Dans la même semaine.
J'ai vu 3.
Je l'ai vu 4 fois dans la même semaine. Ça a été le pas un choc, mais une véritable surprise dans le sens où Charlie à chocolaterie, moi, c'est un des films de mon enfance. C'est-à-dire que quand la version de Tim Burton est sortie au cinéma, j'avais peut-être quoi, 12 ans, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Et donc, en voyant Wonka au cinéma, c'est la première fois de ma vie depuis des années où j'ai retrouvé la magie de mon enfance. C'est-à-dire que je regardais le film en me disant, tu sais quoi, oublie ton esprit critique. Commence pas à te dire, mais ça, c'est pas cohérent. N'essaie pas d'analyser quelque chose. Laisse-toi porter comme si t'avais 12 ans. Et ça a fonctionné. J'ai tellement aimé cette sensation, j'ai tellement aimé cette saveur, ce goût qu'est Wonka. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de retourner en boucle au cinéma tous les jours pour revivre cette sensation d'enfance que... pendant 2 heures, en fait. Et Timothée Chalamet est un parfait Willy Wonka, qui est, en fait, la version jeune du personnage campé par Gene Wilder dans le film de 71. C'est un préquel du film de 71 et pas celui de Tim Burton. Ouais, c'est important de noter. Il y a plein de gens qui sont trompés. Et c'est riche. Pour moi, Wonka, c'est le film qui réunit tout. Il y a de la musique, de la comédie musicale. Il y a du drame, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du rire. Il y a Rowan Atkinson qui joue Mr. Bean, il y a Hugh Grant, il y a Olivia Colman. Je veux dire, il y a un casting magnifique. C'est très top. British. Moi, je pense que c'est vraiment un film qui est le film de Noël pour les enfants. Si vous avez des enfants en bas âge, qu'importe, vous les amenez voir Wonka pour les fêtes de Noël, pour les vacances, pour le week-end. C'est le film qui fait du bien. On ressort de sa séance, on a envie de chanter, on a envie d'écouter la BO. Je suis amoureux de Wonka. Je suis tellement amoureux de Wonka que j'ai acheté le pot de popcorn, les vêtements, les logos, les machins. Je n'arrête pas. Je suis obsédé par Wonka. J'ai pris 5 kilos depuis Wonka. C'est très simple.
Le chocolat, t'as pris toutes les barres.
Je n'arrête pas. J'ai acheté la barre de chocolat Wonka, mais je n'arrête pas. C'est-à-dire que c'est une passion, ce film. Donc voilà, je suis trop content de venir sur celui-là. Wonka, c'est ma comédie musicale préférée de 2023.
Tu sais qu'il y a des nouveaux chocolats au Gaumont-la-Belge avec la tête de Wonka et tout. Si, ils en ont fait.
Mais oui, je l'ai vu.
Je te jure.
Oh là, avec les lunettes et le chapeau.
Tout. Et puis il y a encore des trucs qui vont arriver, là, des sucettes, des machins.
S'il vous plaît. Mais après, en même temps, Wonka, c'est un film qui est réalisé par Paul King. Paul King qui a réalisé les 2 premiers Paddington. Donc je pense que pour ce qui est de faire des films british, blockbuster, familial, c'est bon. C'est le roi. Donnez-lui tous les prochains Harry Potter. Voilà. Ça peut être une idée.
Ah oui, carrément.
Écoutez, j'ai proposé l'idée des pantoufles à Christopher Nolan. Je peux proposer l'idée d'Harry Potter à Paul King.
Harry Potter. C'est la série, c'est ça?
La série, hein, t'imagines.
M'en parle pas.
Mon Dieu. Vanessa, donc, ton avis sur Wonka?
J'adore Wonka. Il est magnifique, il est somptueux. Tu passes un moment de rêve, en fait. L'espoir d'un jeune qui te conquis même s'il y a des épreuves. Et puis, il y a des petits rôles à côté qui sont charmants. Quand il chante propre, moi, ça m'éclate.
Ouais, scrap,
je trouve
scrap.
Ça sweatshirt. Mais franchement, c'est excellent, c'est bien fait. Il y a tout, il y a la magie, tu vois des girafes, tu vois un Oompa Loompa,
Oompa Loompa,
grandeur nature, enfin, façon grandeur nature. Mais voilà, un Hugh Grant, Oompa Loompa, c'est mémorable, quoi.
C'est trop bien.
C'est dantesque.
Et puis, il y a quelque chose qui est génial avec ce film, c'est que dès le début, on te dit, c'est un magicien chocolatier. Ce qui fait que s'il décide de fabriquer des chocolats qui peuvent s'envoler dans le ciel, à aucun moment, en tant que spectateur, on se dit, mais ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut pas. Au contraire, il faut y croire, il faut plonger dedans. Et vraiment, si on y va avec l'âme qu'on avait quand on était enfant, c'est magique, ça fonctionne sur nous, c'est un film magique, Wonka.
Puis il y a des vrais méchants.
Et il y a des vrais méchants.
Il y a des vrais méchants qui s'accaparent le chocolat et d'autres qui prennent le désespoir des gens et s'en servent pour les rendre prisonniers.
Et là, si on part dans l'analyse, c'est un film de société, c'est un film sur la concurrence, c'est un film sur l'entreprise, se faire piétiner par les autres, reprendre du pouvoir. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose de... Il y a un message, n'empêche, derrière Wonka. Et c'est justement là, je pense que Wonka réussit là où Barbie a échoué, selon moi. C'est-à-dire que c'est un film qui fonctionne dans la lecture pour les enfants comme pour les adultes. C'est-à-dire que les adultes vont voir justement ce rapport à l'entreprise, à la concurrence, et alors que les enfants vont voir l'aspect magique de Wonka, du chocolat et la rêverie, quoi. Et donc, voilà, pour moi, Wonka, c'est le film réussi de cette année. Mais j'ai choisi Babylone parce qu'il y avait la séquence avec Tobey Maguire qui allait dans le sous-sol. Voilà.
Donc, on sait ton film préféré, c'est Babylone.
Babylone, c'est mon film préféré, mais Wonka derrière. En fait, je pouvais pas dire que Babylone et Wonka sont mes films préférés de 2023. En fait, c'est ça la réalité, c'est que ce sont mes deux films préférés de 2023. Mais il faut en choisir un, donc j'ai choisi Babylone. Mais au fond de moi, quelque part, en fait, l'enfant en moi choisit Wonka, l'adulte choisit Babylone. Voilà.
Oh, c'est beau.
Ça sera la conclusion de cette émission. Donc, on arrive à la fin. Ça y est. Tu nous as dit réellement ton film préféré de 2023, du coup ? Parce que là, on en a choisi plein.
Ah, mon film préféré de 2023, sans contexte, c'est Je verrai toujours vos visages.
Eh ben voilà, Je verrai toujours vos visages pour Vanessa et Babylone.
Je le dirai plusieurs fois, hein. J'espère qu'il sera césarisé, j'espère qu'il sera reconnu, parce qu'il est vraiment incroyable. Et j'aurais voulu qu'il parte aux Oscars, mais ça ne s'est pas fait.
Eh bien, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, c'est de continuer à vivre et que les gens le découvrent. Voilà, on arrive donc à la fin de cette émission, une émission qui se conclut. Et voilà, on arrive donc à la fin de cette émission. Ça y est, on peut mettre 2023 derrière nous. Merci Vanessa.
Merci Clément, merci d'être venu à la radio, nous faire partager ta passion du cinéma. C'est toujours un réel plaisir.
Eh bien écoute, c'est un réel plaisir de parler de cinéma avec des gens qui sont tout autant passionnés. Merci Vanessa, merci Léo pour la technique et ton approche pour Christopher Nolan. C'était très très sympa. Je suis trop content parce que ça y est, on a quelque part fait le bilan de cette année 2023. Il y a eu des films magnifiques, ça nous a bouleversés. On a fait un point sur le cinéma français qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer avec des araignées, avec des animaux un peu magiques. Voilà. J'espère que 2024 sera tout aussi marquant. Ça commence plutôt bien. Et j'espère vous retrouver ici à la radio, vous les auditeurs, pour parler de cinéma, pour vous parler des films de 2024, de 2025, et que ça n'arrête jamais, voilà, parce que c'est notre passion, c'est ce qu'on aime. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Au revoir. Canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid